www.libradio.org. La station debout.
Alors, nous sommes le samedi 29 août et nous allons parler aujourd'hui d'un métier méconnu, mais non moins extrêmement important, extrêmement central en tout cas selon nous, c'est le métier d'archiviste. Alors bonjour Marion et bonjour Séverine, bienvenue à vous.
Merci, bonjour.
Vous êtes toutes les deux, je vais vous demander de vous présenter vous-même concernant votre trajectoire professionnelle, celle qui vous a mené à créer, parce que si j'ai bien compris, vous êtes donc les co-créatrices de Clio Archives, dont le site internet est à l'adresse suivante, www.clio-archives.ch, c'est ça ?
Exactement.
Alors, est-ce que vous voudriez peut-être nous dire en quelques mots quelle est votre trajectoire, qu'est-ce qui vous a mené, notamment en termes d'études, à devenir archiviste ? Qui veut commencer ? Peut-être Marion ?
D'accord. Ben moi, j'ai fait un premier parcours en lettres à l'Uni de Lausanne. Donc j'ai fait histoire parce que je savais pas trop quoi faire dans ma vie, puis que l'histoire m'intéressait. Après ça, j'ai pas trouvé de job pendant un moment. J'ai un peu bossé dans divers magazines, dans le journalisme, ça marchait pas très bien. Donc j'ai repris une formation en sciences de l'information, qui est tout ce qui est autour des bibliothèques et des archives, ce qui correspondait bien avec ma première formation d'historienne. Et du coup, je me suis dit, ben les archives, en fait, c'est assez chouette. Et il y a beaucoup de travail à faire là-dedans.
D'accord. Merci beaucoup, Marion. Et Séverine ?
Alors moi, j'ai aussi un premier parcours en lettres à l'Université de Genève, où j'ai étudié le japonais et l'histoire des religions. Et puis, j'ai commencé, en fait, pendant mes études, à travailler à la bibliothèque de la faculté de lettres. Et j'ai repris en même temps que Marion, donc j'ai fait le master en sciences de l'information à la Haute École de Gestion à Genève. Donc on a fait nos études ensemble et puis après on a commencé à travailler ensemble un peu par les hasards de la vie. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Clio Archives.
D'accord. Alors, donc pour mes camarades de radio, vous me faites un petit signe quand vous voulez poser des questions, d'accord, sur le petit chat. Comme ça, je vous cède la parole bien volontiers. Alors, pour commencer, une archive, qu'est-ce que c'est qu'une archive ? Quel matériel est-ce qu'on archive ? Sur quel support ? Et dans quels écrans ?
Alors, une archive, ça peut être n'importe quel document de n'importe quel type. Ça peut être autant du papier physique que des documents audiovisuels, que des documents qui sont natifs numériques. Il y en a vraiment de toutes les formes. Du moment où on crée en fait de l'information, on crée une archive qui aura soit vocation à être conservée à long terme, ou soit qui, au bout d'un moment, sera éliminée quand on estime qu'elle a plus de valeur. Mmh. Donc ça peut prendre tout type de forme et l'objectif, c'est de pouvoir conserver les documents qui sont nécessaires ou qui ont un intérêt historique, de pouvoir les préserver à long terme pour qu'on puisse les rendre accessibles au public sur une longue durée.
Voilà. Qu'est-ce que tu entends par long terme ? Ça se chiffre en années, en décennies ou plus que ça ?
En carrément plus que ça, je dirais. Le but, c'est de pouvoir garder aussi longtemps que possible, donc aussi longtemps qu'il y a une société humaine, on va dire. Idéalement.
Et alors là, je pense qu'une des questions qui se pose, c'est le support, le type de support, dont j'imagine qu'au travers des âges, on en change.
On en change régulièrement, ouais. Et plus on en change, en fait, plus ils deviennent fragiles. Parce que le marbre, ça se conserve assez bien. Et le natif numérique, eh ben, ça se conserve plutôt mal, en fait.
Et alors, vous-même, puisque à Clio Archives, eh bien, vous proposez de produire des archives, et après, on reviendra là-dessus, vous nous direz quelques mots de votre mission. Quels sont les supports que vous utilisez et ceux que vous voyez comme meilleurs que d'autres pour maintenir des archives aussi longtemps que possible ?
Alors, pour le moment, le plus simple, ça reste le papier. Donc, autant que possible, si on veut garder quelque chose à long terme, si c'est imprimable, de l'imprimer. Le problème des fichiers numériques, c'est que les formats changent. Si les formats sont propriétaires d'une entreprise, ils peuvent disparaître du jour au lendemain. On peut avoir des documents qu'on utilisait très couramment et tout d'un coup, il n'y a plus aucun logiciel qui est capable de les ouvrir. Donc, c'est vrai que le papier, ça reste le plus simple. Le papier et les documents physiques.
Qu'est-ce qu'on entend par documents physiques, des objets ?
Soit des bandes vidéo, du papier, des bandes audio, ce genre de choses.
Et alors, parlons quelques mots des écrans, de l'écran. Une archive, ça se conserve dans des lieux spéciaux ?
Ça se conserve là où il y a de la place. Alors, idéalement, il faudrait effectivement certaines conditions qui dépendent souvent du matériau, mais les règles générales, c'est pas d'humidité, pas de lumière, et puis pas de petits insectes et de bestioles qui viennent ronger. Après, on fait toujours avec ce qu'on a, donc faut essayer de faire au mieux.
Alors, vous parliez de papier, c'est assez marrant, parce que finalement, on est quand même dans une ère technologique, on parle de cloud, on parle effectivement de, vous l'avez dit, d'archives numériques, et selon vous, finalement, ce qui est le plus fiable encore, eh bien, c'est le papier.
Ouais.
Ça fait partie d'un des défis, d'un des challenges du métier d'archiviste, de se dire, il va falloir qu'on trouve quelque chose à un moment donné pour sécuriser d'une certaine manière, ou du moins pour pérenniser les archives autres que le papier, ou bien finalement il n'y a pas besoin et vous pensez, vous, que c'est un matériel qui est très largement suffisant.
C'est pas forcément viable à long terme de tout conserver sur papier. Il y a de plus en plus de systèmes qui sont développés pour garantir la conservation des données de manière numérique à long terme. C'est vrai que nous, on travaille du coup plutôt avec des très petites structures et ce genre de logiciel, c'est pas encore c'est adapté pour justement des banques ou des grandes structures, mais c'est vrai que quand on travaille petit, ça reste le papier le plus simple, mais à l'avenir, c'est vrai que c'est quelque chose qui va évoluer.
D'accord. J'avais une question, peut-être qu'elle vous paraîtra curieuse et peut-être qu'elle n'est pas du tout pertinente, mais à qui appartient une archive ? Est-ce qu'elles sont privées ? Est-ce qu'elles appartiennent à l'entreprise ou à l'institut qui est la garante de, en tout cas la productrice de ces archives-là ? Ou est-ce qu'à un moment donné, les archives deviennent tout public ?
Ça, c'est une question intéressante. Bon, il y a la première question, c'est celle du droit d'auteur. Si un document est récent, c'est la personne qui l'a produit qui est propriétaire. Et puis, au-delà de ça, en principe, c'est l'institution qui conserve, dont c'est la mémoire qui a une appartenance morale dessus, en quelque sorte. Mais idéalement, une bonne archive serait ouverte à l'ensemble de la société.
Voilà, parce que admettons que, un historien, une historienne, une chercheuse, souhaite, dans le cadre de ses études, je dis histoire, mais ça peut être de la sociologie, de la philosophie ou quoi d'autre, je sais pas, moi, sur la ville de Genève, tenterait d'aller visiter les archives d'une banque, pour prendre quelque chose qui pourrait être un peu délicat ou compliqué. Est-ce que cette personne-là aurait la garantie d'y accéder, ou est-ce que ça passerait par des autorisations? Vous voyez ce que je veux dire?
Elle aurait la garantie d'accéder si elle cherche à accéder à des archives publiques comme les archives de la ville de Genève, par exemple. Mais il y a des délais de restriction qui sont... On ne peut pas accéder à des documents qui sont encore en cours d'utilisation. Et puis après, il y a aussi des délais par rapport aux données personnelles qui font qu'un document qui contient des données personnelles ne peut pas être consulté pendant une période définie. Par contre, pour les archives d'une banque, ce sera à la banque de choisir ce qu'elle met à disposition du public.
D'accord. Y a-t-il une sorte de devoir, de devoir moral qui appartiendrait, alors, à la société civile par extension, mais qui appartiendrait aux institutions publiques, au gouvernement, de constituer des archives vers lesquelles on puisse retourner. Alors, je pense par exemple à la jurisprudence pour le droit, mais à plein d'autres choses. Par exemple, concernant les chercheuses et les chercheurs à l'hôpital qui feraient des découvertes scientifiques. Qui est-ce qui archive ? Qu'est-ce qui a le droit ? Qu'est-ce qui peut archiver ? Et qui est garant de la mise à disposition de ces archives à tout le monde. J'imagine, à l'hôpital cantonal, il y a effectivement plein de choses qui s'y passent, et puis probablement des... Mmh. Alors, il y a toutes les archives du quotidien sur les cas, tout simplement, sur les cas médicaux. Donc, j'imagine que cela appartienne... il y a le secret professionnel, donc le médecin et le patient, mais j'imagine qu'il y a également toute une série de choses recensées qui pourraient appartenir à tous les patientes et les patients, parce que ce serait des protocoles médicamenteux, des traitements, vous voyez, des choses comme ça. Je prends l'hôpital, mais il y aurait d'autres institutions comme ça.
Bon, je pense que pour ce qui est des institutions publiques, il y a certainement un droit moral, ça c'est sûr, et puis il y a même un droit tout court, hein, de certaines choses qui doivent être conservées, qui doivent pouvoir être consultées après par qui, dans quel délai, etc. Il y a toute une série de règlements probablement aussi interne, mais effectivement,
le cas médical est assez particulier,
parce que
c'est vraiment des données qui sont très personnelles. Mm-hmm. Bah, je pense, par exemple, si on prend le cas de, pas forcément du traitement des patients et patientes, mais de la recherche. Oui. La recherche, si elle est financée par exemple par le FNS, en principe, c'est demandé qu'à la fin une fois que les résultats sont obtenus, que les données soient publiées et mises et rendues accessibles au public.
Ah, juste le FNS, qu'est-ce que ça désigne?
Alors, en tout cas, le FNS Horizon 2020 demande ça à des chercheurs qui font des demandes de fonds. Oui.
Un autre exemple, concernant le CERN, une institution comme le CERN. Y a-t-il là des précautions particulières concernant les archives du CERN? Est-ce que, pour étendre la question, voilà, moi qui aime bien les romans policiers, eh bien, qu'en est-il de l'espionnage industriel? Est-ce que vous avez eu vent ou vous-même avez, parce que j'aimerais bien vous poser la question suivante, c'est y a-t-il des anecdotes comme ça? Avez-vous été approché ou sollicité pour des choses un petit peu spéciales? Ou là, on dit, non, mais attention, ces archives-là, il faut qu'on les garde, elles sont pour nous essentielles parce qu'elles retracent un cheminement de réflexion et tout ça. Mais en même temps, elles sont sensibles parce que, eh bien, elles pourraient être encore sujettes à être pillées, volées, détruites ou je ne sais quoi. Je pense à la science, mais également effectivement à l'espionnage industriel, par exemple. Est-ce que ça, voilà, c'est quelque chose auquel on est sensible lorsqu'on devient archiviste ou c'est juste de la science-fiction?
Je pense que c'est quelque chose qui existe très certainement, mais c'est pas quelque chose à quoi on a été. En tout cas, nous, confrontés personnellement, donc c'est assez difficile de savoir à quel point c'est répandu ou pas.
D'accord, bon, ça par accident, peut-être. En fait, le problème, c'est que si des données sont sensibles, on ne fera pas confiance aux archivistes pour mettre les mains dessus, probablement.
Ah, ouais, d'accord, j'ai compris. Et alors, dites-moi, comment est-ce qu'on... Vous qui êtes donc sollicité lorsque une association ou des gens veulent constituer une archive... Qu'est-ce que vous conseillez de faire? Comment est-ce qu'on filtre une archive? Comment est-ce qu'on choisit un document plutôt qu'un autre, une notion plutôt qu'une autre? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas tout archiver. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même se séparer de certains trucs. Il y a probablement du superflu. Alors, comment est-ce qu'on devine qu'est-ce qui est superflu à une époque et dans une géographie, qui est dans cette temporalité, en étant plus ou moins sûr que 10 ans après, on ne va pas se dire « Ah non, mais ça, on aurait dû le garder ».
Alors, il y a d'abord une base légale qui nous aide. Il y a des documents comme les documents de comptabilité qui doivent être gardés pendant 10 ans. Et puis, tous les documents qui sont essentiels comme les statuts ou les PV des assemblées générales qui, de toute façon, il faut conserver. Donc, il y a déjà au moins une base légale qui dit le strict minimum qui doit être conservé. Ça, c'est la base. Et ensuite, on va essayer de conserver ce qui permet de rendre compte des activités de l'association et puis de l'évolution de ces activités au fil du temps. Et le travail d'archivage reste un travail subjectif.
Ah oui.
Ah, mais c'est important de le savoir. Ça veut dire qu'on compte sur le jugement... La lucidité, le bon jugement, et ensuite Pierre aura une question. Le bon jugement, le comment dire, le jugement éclairé des archivistes.
Exactement.
Nous, on va travailler en collaboration avec les avec les personnes qui travaillent dans l'association, parce qu'on peut pas déterminer nous toutes seules en venant de l'externe ce qui est important comme document. Donc c'est un travail qui va se faire en collaboration, mais c'est vrai que si une partie qui est traitée par Marion et une partie qui est traitée par moi, on n'aura pas conservé exactement les mêmes documents.
C'est ça. Intéressant, intéressant. Oui. Pierre, tu as une question?
Oui.
Oui, moi je voulais vous demander pourquoi à la fin on archive? Est-ce que c'est pas, j'allais dire, déprimant finalement de lutter contre le temps et d'essayer de conserver des milliards de choses que plus personne ne lira jamais, sauf exception. Comment vous vivez ça? Parce que moi, à chaque fois que je rentre dans une bibliothèque ou dans une archive, je me dis, mais je regarde n'importe quel livre, je me dis, mais personne n'ouvrira plus jamais ce livre. Pourquoi le conserve-t-on ici?
Bah déjà, nous, on les lit. Et on trouve ça plutôt intéressant, donc on se dit peut-être que ça intéressera d'autres gens aussi. Après, évidemment, on n'est pas sûr que tout va passionner tout le monde, mais l'idée, c'est que les choses soient là au cas où quelqu'un en aurait besoin ou s'y intéresserait, et qu'on ne perde pas un pan de l'histoire parce qu'on a trouvé que ça prenait trop de place dans les placards.
C'est évidemment ironique, hein, moi.
Ouais, je pense bien.
Je serais désespéré parce que chaque fois que... À part ça, chaque fois que j'ouvre un livre n'importe où, sur un sujet que je ne connais pas... Il y a des choses qui m'interpellent, qui m'intéressent.
Et puis on a eu l'occasion...
Tout stocker. Non, allez-y.
Et on a eu l'occasion de voir aussi que le travail qu'on a fait à certains endroits a été utile à des gens par la suite. Donc ça fait plaisir aussi.
Moi, je suis dans l'informatique et ça fait qu'on est à l'ère de la... Tout le monde me pousse à digitaliser tout et n'importe quoi. Et je trouvais étonnant que finalement, c'est le papier qui soit... encore aujourd'hui le support le plus fiable, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas urgence au niveau mondial à établir des standards et à les diffuser partout pour qu'on ne perde pas justement toutes ces archives qui sont en train de se faire manger par des insectes ou qui risquent de brûler par-ci par-là ou simplement de disparaître.
Et puis alors moi, si je peux ajouter un mot, savez-vous si une instance internationale existe concernant les archives, justement dans le sens que vient de dire Pierre, pour peut-être unifier certains standards et pour dire l'importance des archives, le droit, parce qu'on parle de droit et de devoir de mémoire, et ben l'archive est complètement là-dedans, et peut-être que au sein de l'ONU ou d'autres instances internationales pourraient exister et venir en aide à ces notions-là. Est-ce que ça existe? Est-ce que vous en savez quelque chose?
Alors il y a des normes donc des normes ISO sur la pour garantir la conservation et puis des normes pour la description des archives. Mais c'est vrai que
il y a des organisations, il y a le Conseil international des archives, hein, le CIA pour ne pas le nommer par exemple, qui est une organisation non gouvernementale qui essaye de poser des normes qui sont utilisées. Je crois que c'est eux qui ont fait la fameuse norme ISAGE qu'on utilise pour la description des archives, par exemple. Donc, il y a quand même des outils comme ça.
Quand on fait de l'histoire ou quand on fait un travail de mémoire, eh bien, on a beaucoup de problèmes concernant, eh bien, par exemple, des sujets un petit peu délicats, notamment certains sujets combatifs. On a à Genève les archives contestataires, on a le CIRA, donc le Centre international de recherche sur l'anarchisme à Lausanne, qui sont deux lieux qui conservent, mais pas que, des collections qui auraient tout simplement disparu parce qu'elles ne sont, sinon elles ne sont pas recensées. C'est un peu cette histoire des vaincus ou cette histoire de résistance que l'on efface. On s'aperçoit, pour prendre quelques exemples, que certains personnages, on pourrait parler de Lumumba, on pourrait parler de Sankara, dont on sait que tous les écrits ou là un maximum de documents les concernant ont été détruits pour effacer d'une certaine manière cette présence offensive. Quelle est votre position par rapport à ça? Selon vous, l'archiviste, c'est également un acteur politique de la société?
Oui. Pour moi, oui, c'est sûr. On ne peut pas toujours faire confiance aux instances gouvernementales pour conserver les choses. Donc, c'est un petit peu aussi notre travail de retrouver les choses qui n'auraient pas été conservées et puis de pouvoir les mettre en avant. Mais du coup, c'est une prise de position de notre part. On n'est pas toujours neutre. Donc, c'est quelque chose à garder en tête, quoi. On n'est pas parfaite non plus.
C'est un parti pris que nous, on a effectivement. C'est vrai qu'on on travaille principalement avec des associations féministes. Il y a une volonté aussi de mettre en avant ces archives qui sont produites par des femmes ou par d'autres personnes minorisées qui peinent à trouver leur place dans et à être mises en avant par des centres d'archives publics.
Oui. Est-ce que vous avez déjà rencontré des résistances face à ce travail-là, ce travail mémoriel-là? Je pense notamment récemment à une polémique concernant la féminisation des noms des rues, mais également à certaines statues dont on a bien reconnu les personnages et ce qu'ils représentaient, et à cette volonté peut-être de les renverser ces statues une bonne fois pour toutes. On voit que c'est un débat quand même qui tend les gens. Comment vous observez ça de votre point de vue d'archiviste? Sans compter que effectivement il y a aussi la question. Alors là, on l'a dit, la toponymie politique, mais ça c'est encore un autre sujet. Disons concernant est-ce que vous avez été confronté déjà à des résistances concernant un travail d'archives que vous constatez, ou en tout cas celui de cette volonté de vouloir faire émerger des archives méconnues, dissimulées presque?
Je ne crois pas qu'on ait été directement confrontés à ça, mais c'est vrai que on a notamment traité les archives militantes de Griselie d'Israël.
Oh, très bien.
Voilà, en lien avec les noms de rue, puisque oui. La rue Jean-Violette a fait une pétition pour refuser le nom de Griselie d'Israël. Et on a plutôt espoir que ce qu'on a apporté avec le travail qu'on a fait là-bas permette justement de mettre en avant tout ce qu'elle a fait, et puis que ça puisse éventuellement servir un peu de support à sa visibilité, et que ça permette notamment d'aboutir à avoir une rue Griselie d'Israël un jour à Genève.
Mais vous constatez qu'il y a effectivement alors une résistance selon certains, quand on entre sur certains domaines? Parce qu'effectivement, en tout cas, on a vu, sur les réseaux sociaux, on a vu vraiment une levée de boucliers concernant, en tout cas, la féminisation des noms de rue, en voulant, réduire ça à quelque chose d'inutile, de vain, de coûteux, alors qu'on sait bien l'importance des représentations et la manière dont se font des représentations au travers de la déambulation dans la rue. Ça, pour vous, c'est quelque chose qui est quand même présent, c'est cette résistance et cette envie de ne pas aller, ou de dissimuler en tout cas une mémoire collective qui est peut-être inconfortable pour certains.
Alors, je crois pas qu'on ait déjà rencontré vraiment une résistance. Après, nous, les archives, c'est pas exactement la place publique, hein. Donc, on touche pas au nom de rue que les gens croisent tous les jours, ni aux statues qu'ils ont dans le square devant chez eux. Donc, il faut quand même encore aller les chercher. Et à partir du moment où on va chercher, il y a déjà un certain intérêt et une certaine ouverture, je pense.
D'accord. Ok, je comprends. Dites-moi, y a-t-il, lorsque l'on est archiviste, si j'ai bien lu, Séverine, tu as travaillé également dans les archives du CICR et de l'OMS.
C'est exact. J'ai travaillé par le passé.
Ouais. Y a-t-il des lieux, d'une certaine manière, sanctuaires dans lesquels on a envie d'aller un petit peu traîner ses yeux, traîner ses doigts pour voir comment c'est fait, comment c'est archivé? Y a-t-il des lieux un petit peu mythiques ou mythologiques comme ça vers lesquels on aimerait aller? Ça, c'est le premier volet de la question pour toutes les deux, pour Séverine et Marion. Le deuxième volet, ce serait, y aurait-il un document sur lequel vous seriez tombé qui vous a paru d'être d'une incommensurable valeur? Lorsqu'on est archiviste, est-on confronté à la problématique des traductions? Est-ce que ça arrive? Parce qu'effectivement, à chacune... je me dis tout le temps que dès lors qu'on change de support ou qu'on traduit un texte, il y a beaucoup de raisons pour perdre peut-être quelques petites choses, involontairement même, au passage. Et est-ce que ça, c'est lorsque l'on est archiviste, est-ce qu'on a ça en tête lorsque l'on tient un document en disant, bon, on a ce que j'ai sous la main, mais qui est tout de même le résultat d'une passation pluriel, je dois, moi, faire un travail de recontextualisation, de recomposition, de, je dois compléter des choses, peut-être combler quelques espaces vides, parce que je sais que quoi qu'il en soit, la nature humaine fait que, et puis le temps fait que des choses ont été diluées ou sont manquantes désormais.
Et alors, il y a un très gros travail de contextualisation à faire. On se retrouve très régulièrement avec des documents qui ont l'air de sortir un peu de nulle part et qui, peut-être tout seuls comme ça, n'ont pas l'air d'être particulièrement pertinents. Et puis, en fouillant dans le reste du fond d'archives, on retrouve des fois des petites bribes de contexte là-dessus. Et puis, au final, un document qui, s'il avait été tout seul, on ne l'aurait pas forcément conservé. On voit qu'au sein d'un tout, il fait du sens et que finalement, il est important. Et puis après, il y aura toujours une part, effectivement, des documents pour lesquels on n'arrivera jamais à retrouver le contexte parce qu'on sait pas, on n'arrive plus à retrouver la personne qui a produit ce document, personne ne sait trop quand c'était. Il y a des pertes comme ça aussi.
Vous pensez qu'il y a un travail d'enquête également qui est parallèle d'une certaine manière à celui d'archiviste lorsque l'on découvre que l'on possède un document ? Est-ce qu'on fait ce travail-là systématiquement ou de temps en temps, comme tu viens de le dire, pour le replacer dans un contexte, pour le replacer dans une continuité ou dans un ensemble, eh bien on va, ouais, d'une certaine manière enquêter ?
On va enquêter, ouais, je pense. On va de toute façon enquêter. Des fois, c'est très rapide et on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Et puis, des fois, il faut rechercher un peu, fouiller, aller chercher des informations ailleurs, essayer de contacter des gens peut-être. Et puis, des fois, on n'y arrive pas. C'est un peu frustrant, mais c'est assez passionnant d'essayer de reconstruire une histoire sur la base de documents qui ne sont pas toujours bien classés de manière à ce que ça soit logique.
Marion et Séverine, déjà, je vous remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour répondre à nos questions.
Moi, j'aurais une question pour Séverine. Je me demandais, est-ce que le Japon, il fait un travail d'archivage qui est différent ? Et puis,
c'est une question que je me pose et j'aimerais beaucoup prendre le temps de pouvoir regarder un peu ça. C'est quelque chose que j'ai comme projet, mais que je connais pas très bien, effectivement.
Vous avez pas encore répondu à la question du... est-ce que vous avez détenu à un moment donné, est-ce que vous êtes tombé sur un document tout à fait exceptionnel sur lequel vous avez dit, eh ben voilà, je ne tomberai plus jamais de ma vie sur un tel document. Est-ce que ça vous est arrivé ou c'est encore à venir ?
Alors moi, j'ai un document qui m'a en tout cas beaucoup marqué et ému. c'était au centre Griselidis Real. On est tombé sur un petit papier déchiré avec juste quelques mots griffonnés dessus, qui était en fait une promesse de mariage qui lui avait été faite par un soldat américain quand elle était en Allemagne. Et dans son livre « Suis-je encore vivante ?», elle parle de ce document très régulièrement et c'est un des documents qui la maintient en vie, c'est cette promesse de mariage de quand elle sortira de prison de retrouver ce soldat. Et on est tombé sur ce document vraiment par hasard qui payait pas de mine.
Donc, et connaissant la trajectoire de Griselidis Real, effectivement, ça touche. Juste de t'entendre le dire, c'est touchant, sachant les liens qui. Enfin,
et puis voilà, c'est vraiment une découverte émouvante.
Pour en terminer, eh bien, j'aimerais rappeler que le site internet, c'est www.clio-archive-pluriel.ch, que toutes et tous pouvons, des associations, des institutions, pouvons vous solliciter pour du conseil, pour de l'orientation concernant l'archive, on peut dire ça ?
Absolument ça, ouais. Mm-hmm.
Si nous, par exemple, à Libre Radio, avec nos archivages tentés mais jamais résolus de multiples podcasts décennaux maintenant, mais extrêmement,
ce que j'allais dire.
Voilà, ouais, tout à fait désordonné. Je peux le dire parce que c'est moi qui rate le truc. S'il y avait, en quelques mots, quelques conseils que vous nous feriez comme ça, ce serait quoi ? On archive du podcast ou bof, c'est mezzo. Et puis, comment est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer un catalogue, il faut y aller par thème, par année, ce serait quoi le début de la pelote ?
Bah, pour faire simple, au début, faut garder, ouais, si possible. Et puis chronologiquement, c'est assez facile. Donc, si vous voulez pas passer trop de temps dessus, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, si vous mettez à disposition, c'est encore le meilleur.
D'accord.
Oui, organiser de manière chronologique et après, éventuellement, rajouter des étiquettes thématiques, des mots-clés qui permettent de rassembler les différents podcasts qui traitent d'un même sujet. Mmh. Mais,
D'accord, donc temporel, diachronique et puis thématique.
Voilà.
Bravo.
Le plus important, c'est de rester cohérent sur tout le long et de ne pas faire la moitié de manière chronologique et ensuite la moitié de manière...
Zut, trop tard.
Oups.
Bon, en tout cas, merci beaucoup de vos conseils. Y a-t-il... J'avais encore une toute petite mini-question. Vous avez encore deux petites minutes ?
Oui, oui.
Ouais.
J'aurais... La question que j'avais depuis le début et qui me brûle comme ça un peu les lèvres, c'est êtes-vous tombé ou à votre connaissance existe-t-il des, ce serait horrible, hein, mais des archives relatées ? Y aurait-il des gens assez machiavéliques pour dire je vais faire passer un document pour une archive, mais je vais la produire déjà biaisée, erronée, orientée, en sachant qu'à un moment donné ça va surgir et que ça va ajouter à la confusion ou ça va servir quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, un truc un peu comme ça machiavélique. Est-ce que ça, ou est-ce que c'est juste mon esprit un peu gnagnin qui...
On peut pas prouver que ça n'existe pas, effectivement ça serait possible, mais c'est peu probable. De toute façon, un document, au moment où on le produit, il est biaisé, quoi qu'il arrive.
Marion, merci beaucoup. Séverine, merci beaucoup. Donc, vous êtes
avec plaisir.
C'était plaisir. Donc, vous êtes toutes les deux cofondatrices, co-directrices de Clio Archive. Le site internet, donc, c'est www.clio-archive.ch. Eh bien, bonne continuation pour la suite de votre travail.
Merci beaucoup.